Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Germain, à pareille date, l'année passée, on était tous très enthousiastes à l'arrivée de la marque Polestar. Parce que, bon, cette année, il y a plein de nouvelles marques qui arrivent, mais dans les dernières années, il n'y en a pas eu tant que ça.
Et ça fait déjà un an.
Et évidemment, ben, on avait envie de peut-être faire un bilan de l'arrivée de Polestar au Canada, puis de du temps qu'on a pris pour s'installer dans une période qui est certainement pas évidente pour n'importe quel constructeur automobile. Alors, on est en compagnie de Hugues Bissonnette, qu'on connaît bien, qui est gestionnaire de Polestar Canada. C'est pas plus compliqué que ça. Salut, Hugues.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Ça va bien?
Ben oui. Toi aussi?
Très bien, merci.
Super. Bon, fait qu'évidemment, ben, peut-être faire un retour en arrière pour commencer, pour nous expliquer un peu comment s'est déroulée votre arrivée. Est-ce que ça s'est déroulé comme vous l'aviez prévu? Est-ce que la pandémie, est-ce que tout ce qui a été problématique dans la dernière année, ça a retardé votre arrivée puis votre, le plan que vous vous étiez fait?
Ben, je dirais que la pandémie, un peu comme dans toutes les industries, c'est certain que ça a eu un impact à un certain niveau, surtout au niveau d'établir les infrastructures. Pour nous, c'était vraiment important de s'établir dans les trois grandes villes, dont Vancouver, Toronto, Montréal, pour bien servir la clientèle qui est en processus d'achat de véhicules électriques. Donc, c'était de faire ça rapidement, mais de faire de la bonne façon aussi. Donc, oui, ça a eu un impact à certains niveaux, dont Montréal, où on pourra en reparler, mais évidemment, au niveau des véhicules, les livraisons se sont faites comme planifié, mais c'est plus au niveau de l'infrastructure où on a eu certains délais.
OK.
Donc, de manière un peu temporaire, Polestar s'est installé au Carrefour Laval. Bon, on sait que c'est terminé maintenant. Il était question initialement d'un emplacement au centre-ville de Montréal. On en est où avec cette situation-là?
La décision, au moment où on a décidé de s'établir au Canada, la décision du centre-ville a été prise il y a quelques années déjà. C'était pré-pandémie. Maintenant, pandémie oblige, ça nous a permis de se pencher sur la stratégie. Puis, au même moment, la franchise pour Montréal, pour le Québec, a changé de main.
Oui, initialement, c'était Parc Avenue qui devait s'occuper de l'emplacement à Montréal, non?
Absolument. Maintenant, c'est le nouveau propriétaire étant le propriétaire de la franchise de Volvo Laval, Anthony Tadeo, est maintenant propriétaire de la franchise Polestar pour le Québec.
OK.
Donc, évidemment, ça nous a permis d'avoir des discussions, puis repenser la stratégie. Est-ce que centre-ville, c'est le bon endroit pour s'établir? Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un endroit temporaire qui est établi sur le terrain de Volvo Laval, où on a notre propre salle de montre avec une infrastructure propre à Polestar, qui est là temporairement jusqu'au moment où on va avoir notre concession qui débute la construction au printemps, qui va être établie aussi à Laval.
Donc le centre-ville est écarté, là.
Le centre-ville ne fait plus partie des plans.
Puis c'est intéressant parce que lorsqu'on parle aux nouvelles entreprises qui s'en viennent, elles s'installent toutes en périphérie de Montréal et non pas sur l'île. On parle de Imperium, on parle de VinFast. On veut s'installer en périphérie, mais pas dans les centres-villes.
Et ça se comprend.
Ben oui, absolument, parce que les acheteurs de véhicules électriques sont en périphérie, puis parce que de toute façon, qui va au centre-ville en voiture aujourd'hui? De moins en moins de personnes.
Ben, le centre-ville est tout simplement moins effervescent qu'il l'était il y a 2 ans, là.
Oh, oui, absolument.
C'est plus là.
D'ailleurs, j'ai été capable de me stationner tantôt très facilement.
Oui, voilà.
J'aimerais ça peut-être revenir sur le Carrefour Laval. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme expérience? Parce que vous n'étiez pas... En fait, il y a encore Genesis, qui, je crois, a un kiosque à l'intérieur de ce centre commercial-là. Comment vous avez perçu ça, d'avoir une... on peut pas dire... une concession dans un centre d'achat?
Il y a toujours du positif à retirer de chaque expérience, je pense.
Ouais.
Au Carrefour Laval, c'était bon pour nous parce qu'au départ, le but ou l'objectif était de faire connaître la marque. C'est arrivé au Canada, Polestar, c'était une marque un nom assez méconnu à l'extérieur des clients de Volvo.
Ouais.
Donc, l'important, c'est de faire connaître le nom, faire connaître nos produits. Puis ça a été Carrefour Laval a été un bon véhicule pour faire ça à ce moment-là. Donc, à chaque étape, je pense qu'elle est bonne dans le processus. Puis, on était au bon endroit, au bon moment. Maintenant, on a passé à la prochaine étape. Puis, le but, c'est d'avoir une infrastructure, une concession disponible pour notre clientèle au Québec le plus rapidement possible établie à Laval.
OK.
On sait qu'un des défis de Polestar, c'est peut-être justement de créer une distance avec la marque Volvo. T'as pas l'impression qu'on crée l'inverse finalement en s'installant sur le même terrain qu'une concession Volvo, justement, même si c'est que temporaire?
Écoutez, de cette façon-là, il y a toujours un lien familial. Je pense qu'on le voit au niveau des produits au moment où on se parle. On regarde la Polestar 2, la Polestar 1, il y a un lien très étroit avec les produits Volvo. On utilise la technologie Volvo, on utilise les ingénieurs, on utilise les plans d'assemblage, malgré qu'on a nos propres plans d'assemblage aussi en Chine. Mais je pense que c'est bon de prendre le meilleur des deux mondes. Avec les produits qui s'en viennent, qu'on va lancer dans la prochaine année et les années à venir, vous allez voir que le lien au niveau du design va s'éloigner de Volvo de plus en plus. Tout ça, tout étant dit, le lien familial au niveau de la propriété d'entreprise va rester. Donc, on n'y voit pas d'inconvénient, mais plutôt un bel avantage.
OK, parce que c'est un langage qui est peut-être un peu différent de celui qu'on adoptait au tout début, alors que, justement, on faisait tout pour que Polestar se distingue de Volvo. Puis là, évidemment, ben les gens comprennent que c'est la même entreprise, comme Honda et Acura, comme Lexus et Toyota. Alors, c'est correct en ce qui me concerne que ce soit deux marques séparées qui sont opérées par une même grande entreprise, que là, il y ait un peu plus de proximité. Pour moi, c'était pas un problème. Ce que je comprenais pas nécessairement, c'était pourquoi Polestar tenait tant à se distancer de Volvo, justement.
Ben oui, puis tu apportes un bon point. Je pense que c'est au niveau du produit, c'est au niveau du positionnement. La marque Polestar est positionnée, quand on regarde le niveau de prix, c'est positionné au-delà de Volvo, surtout avec les produits qui s'en viennent. Il y a une stratégie différente aussi au niveau de la perception du produit au niveau des matériaux utilisés, du langage, du design. Puis évidemment, le côté performance qui fait partie du DNA de la marque Polestar.
Tu viens d'évoquer le terme perception. Pour une marque qui était complètement inconnue du grand public, je suis curieux de connaître ton opinion sur la perception de la marque Polestar aux yeux du grand public un an plus tard.
La perception est excellente une fois que les gens ont pris le temps d'apprivoiser le produit. Puis là où je veux en venir, c'est qu'on a mis beaucoup d'emphase dans la dernière année sur s'assurer que les gens prennent le temps d'apprécier, de connaître les avantages du produit, mais aussi le conduire. On a fait beaucoup d'essais routiers à travers le pays complet. On continue d'en faire. Puis c'est là qu'on voit vraiment que les gens apprécient la différence, apprécient la conduite. Puis la conversion, une fois que les gens ont fait les essais routiers, est vraiment élevée. On est très, très satisfait des résultats, en fait, suite à ces essais routiers-là. Puis la perception des gens, même les gens nous le disent, les attentes étaient bonnes, mais une fois que l'essai routier est complété, ça va bien au-delà de ce qu'ils pensaient. Puis il faut penser aussi...
Oui, vas-y.
Ben, faut penser aussi au niveau du développement durable. Je pense que les gens aussi comprennent où on s'en va, la vision de la compagnie. Puis c'est bon de regarder deux véhicules électriques en surface, mais je pense qu'il faut creuser un peu plus creux puis voir d'où ça vient puis où ça s'en va. On peut parler de structure de recharge, par exemple. Un véhicule électrique, oui, c'est bon pour l'environnement, mais comment on le recharge, ce véhicule-là, puis d'où vient l'énergie?
Ouais, ouais.
Il y a plusieurs facettes qu'on peut approcher. Puis une fois que les gens comprennent cette vision-là, ça devient encore plus clair.
Évidemment, on ne se le cachera pas non plus. Tu sais, il y a des gens qui ont pu avoir des Volvo dans le passé avec lesquels ils ont eu peut-être quelques problèmes mécaniques, des problèmes de fiabilité. Quand tu pars à partir d'une page blanche avec une nouvelle marque, il ne peut pas non plus y avoir de perception négative par rapport à cette marque-là, découlant d'une...
Il n'y a pas de préjugé, là.
Ben, découlant d'une expérience antérieure. Fait que, tu sais, c'est peut-être aussi une belle façon d'arriver sur le marché avec une nouvelle marque, avec un nouveau produit, avec une nouvelle philosophie. On l'a vu avec Genesis aussi. Les gens connaissaient pas ça. Puis tu vois, Genesis ne compose pas actuellement avec le problème d'Infiniti, par exemple, qui a de la misère à sortir la tête hors de l'eau, alors que Genesis, ben c'est tout nouveau, tout beau, puis les gens ont pas de perception du passé. Fait que j'ai l'impression que Polestar, c'est peut-être ça aussi un peu.
Oui, oui, puis la perception aussi, je dirais qu'on va chercher un public plus jeune, un public plus sensible à l'environnement. Honnêtement, même de notre côté, on voit la différenciation entre les deux marques de ce côté-là.
OK.
C'est pas nécessairement le même acheteur.
Bon, évidemment, on s'était parlé à peu près à pareille date l'année passée où tu nous avais dit que votre objectif de vente pour la Polestar 2 dans la première année, c'était autour de 800 unités. Est-ce que cet objectif-là est demeuré? Est-ce que vous l'avez atteint, dépassé? Parce que des Polestar 2, évidemment, ben on n'en voit pas encore comme des Model 3, là.
Oui, ça c'est évident. Évidemment, au niveau de l'infrastructure, on en parlait tantôt, c'est de s'assurer d'avoir la bonne infrastructure pour être capable de livrer les véhicules au moment où on se parle. Une commande qui est passée aujourd'hui, on parle de livraison milieu ou fin du printemps.
OK.
Donc, au niveau de l'objectif, c'est dépassé, ça a dépassé nos attentes. Le marché du Québec, c'est un marché très important au niveau du véhicule électrique, on le sait tous. C'est pour ça qu'on s'est établi ici. Puis le marché du Québec, au moment où on se parle, au niveau de Polestar, c'est un des marchés les plus performants en Amérique du Nord.
Okay.
Puis on est établi dans plusieurs marchés aux États-Unis. On peut penser au marché de Los Angeles, le marché de New York, qui sont très, très forts. Mais Montréal compétitionne très, très bien avec ces marchés-là au moment où on se parle.
Donc, on fait face aux mêmes enjeux de disponibilité que le reste de l'industrie dans sa majorité, là.
Au niveau de la production, on n'a pas de contraintes, je dirais,
okay.
De la même façon qu'on voit nécessairement dans d'autres fabricants. Le défi qu'on voit au moment où on se parle, c'est que la demande a augmenté très très rapidement. Comme vous le savez, nos véhicules sont assemblés dans nos plants en Chine, donc évidemment d'ajuster nos chiffres de production, ça a un impact dans le marché que quelques mois plus tard. Donc, c'est d'ajuster et s'ajuster face à la demande. C'est ça qui prend un certain temps. Mais je pense qu'on est en ligne avec la cadence, puis il y a un délai de 3 à 5 mois. Ça va être ce qu'on s'attend pour la prochaine année.
Ce qui est rendu une norme par les temps qui courent, oui. Parce que tu t'achètes une camionnette Chevrolet, que tu t'achètes peu importe c'est quoi, tu vas l'attendre plusieurs mois aujourd'hui, là, à moins d'acheter une Honda Civic.
Si tu veux un simple RAV4, c'est ça aussi.
Oui, ouais, c'est ça. Il y a juste la Honda Civic. Ça, il y en a. Ça, c'est pas un problème.
Mais c'est un véhicule qui est assemblé ici, avec des grandes capacités de production, avec une demande qui a peut-être un peu baissé aussi. Donc,
ouais, légèrement.
Ça aide de ce côté-là.
Bon, là, évidemment, côté produit, la Polestar 2 a été votre seul produit en cours d'année 2020. 21. Arrivera en début d'année une version simplifiée, si je peux dire, de la Polestar 2, donc avec un seul moteur, roue motrice, qui n'est pas quatre roues motrices, en fait. Et là, vous arrivez aussi avec le Polestar 3, qui, lui, bon, risque de connaître beaucoup de succès parce que c'est un VUS. Alors, comment est-ce que vous anticipez l'avenir avec ces deux produits-là? Et pourquoi vous vous êtes ajusté avec une version, disons, d'entrée de gamme de la Polestar 2?
Mais c'était déjà planifié dès le départ.
Okay.
Donc, on vient tout juste de débuter la production de cette version-là, qui a une certaine demande au Canada, un peu moins au Québec, mais plus en Ontario, plus à Vancouver, on va dire.
Ouais.
Puis je pense que c'est important aussi d'avoir un véhicule qui compétitionne avec le reste du marché. On voit que ce produit-là est disponible dans certains de nos compétiteurs, donc faut s'ajuster de notre côté. On l'avait lancé dans d'autres marchés au préalable. Puis on pense que c'est un véhicule qui a une certaine demande aussi au Canada. On sait aussi qu'on a ajusté, on a un véhicule d'entrée de gamme avec des prix de base plus attrayants. Qui fait que les véhicules aussi se qualifient pour les statistiques
du Québec. Ça change beaucoup la donne, ça.
Oui, oui, absolument.
Parce que là, on va chercher une nouvelle clientèle, là.
Oui, on se devait d'être là. Ça fait partie de la topographie ici au Québec. On doit être dans cette gamme de prix-là.
Mais sachant que c'est un constructeur basé en Chine, d'avoir cette agilité-là de s'adapter pour le Québec essentiellement, c'est une preuve d'un bel intérêt porté pour le Québec, vraiment.
Oui, oui. Puis on parlait du VUS tantôt, le Polestar 3 qu'on va lancer en cours d'année 2022. Évidemment, ça va être un véhicule qui aura beaucoup de succès pour le Canada. On sait que les VUS sont en augmentation, sont en grande demande.
Ah oui?
Pratiquement 80% du marché.
Tu nous dévoiles tout un scoop, là.
Alors, oui, on s'attend à une grande demande de ce produit-là aussi.
Puis le Polestar 3 va venir rivaliser avec quoi comme produit, par exemple? Comment vous le positionnez, ce produit-là, exactement?
La Polestar 3 est positionnée directement, pas seulement avec d'autres SUV seulement électriques, mais on regarde le marché en entier. Par exemple, la Porsche Cayenne.
Okay.
Donc, le Polestar 3, c'est un véhicule qui est axé sur la performance, qui est très performant. C'est un SUV, on peut penser à un SUV quand même pleine grandeur avec l'empattement d'un Volvo XC90, mais 5 passagers, avec
okay.
un toit plus bas, un stand qui est beaucoup plus sport. BMW iX, Tesla Model X, par exemple, ça va être nos compétiteurs directs.
OK, parfait. Puis ça, est-ce que vous avez une offre mécanique distincte ou est-ce que vous avez une seule motorisation 4 roues motrices? Allez-vous jouer sur différentes cartes avec ça?
Si vous regardez l'offre de la Polestar 2, vous avez une bonne idée de ce que Polestar 3 va offrir en termes de motorisation. Donc,
et comme je suis très fort en déduction, ben je viens de comprendre qu'il y aura un modèle d'entrée de gamme et un modèle plus performant. Bon. Écoute, l'autre question que je veux te poser, évidemment, c'est que vous étiez pratiquement seul comme nouvelle marque de véhicules électriques en 2021 sur le marché. Puis il n'y en a pas eu beaucoup des nouvelles marques qui sont apparues au fil des dernières années. Bon, Tesla est arrivé en 2012 chez nous. Il y aura eu Genesis, qui est une division d'Hyundai. Mais sinon, les nouvelles marques, on n'a pas vu ça très souvent. Et en 2022, il y aura 5 nouveaux constructeurs de véhicules électriques qui vont s'établir chez nous. Est-ce que ça vous effraie un peu? Comment est-ce que vous anticipez l'arrivée de cette compétition-là qui va être quand même assez massive?
J'apprécie la saine compétition. Je pense que c'est important pour la clientèle d'être capable de se comparer, de comparer les différentes offres dans le marché. Mais on est confiant en notre ligne de produits. Évidemment, on l'étend avec la Polestar 3, avec le Precept qui va se transformer en Polestar 5, qui va être aussi lancé sur le marché. Je pense que c'est important d'avoir plusieurs offres dans un même marché pour que le client puisse choisir. Puis, c'est important aussi de se démarquer. Je pense que on peut regarder deux véhicules électriques comme deux véhicules qui ont un peu les mêmes attributs, mais encore une fois, comme je disais plus tôt, il faut regarder plus creux la vision de l'entreprise, le développement durable, les matériaux utilisés. Je peux parler du projet Zéro, qui est un véhicule qu'on veut lancer d'ici 2030, qui va avoir zéro empreinte écologique, autant au niveau des fournisseurs que de l'assemblage, que du véhicule livré. Donc, pour nous, ça fait partie intégrante de notre modèle d'affaires. Donc, c'est pas juste de livrer un véhicule avec des batteries. C'est, c'est la vision complète de l'entreprise, puis c'est là qu'on veut se démarquer.
Mais c'est aussi l'arrivée de nouvelles marques qui, elles aussi, partent à partir d'une feuille blanche et doivent aller chercher la perception du public. C'est un contexte très particulier de voir 5, 6, 7 nouvelles marques débarquer à l'intérieur de 24 mois dans un marché qui n'avait pas ces marques-là avant. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant.
Dans le cas de Polestar, on a la chance d'avoir un géant qui pousse très fort derrière, ce qui n'est pas nécessairement le cas de ces autres marques qui vont débarquer. Oui, il y a des grandes entreprises derrière, mais peut-être un peu moins connues et moins établies, en tout cas, sur le marché.
Oui, mais Germain, on sait tous aujourd'hui que Rivian vaut déjà plus cher que Volkswagen.
Oui,
regarde en bas.
Oui, c'est ça. Mais j'aime mieux regarder, moi, des autos sur la route puis des autos dans des concessionnaires que des valeurs boursières.
Ouais, c'est ça.
En début d'entrevue, Hugues, tu nous mentionnais Polestar allait s'établir définitivement à Laval. C'est quoi les autres projets pour la marque au Québec?
On veut s'assurer, puis de cette façon-là, on parlait d'autres marques qui vont s'établir. Je pense que ça vient un peu bousculer le modèle d'affaires aussi en même temps. C'est bon de toujours s'adapter, je pense, avec le marché, avec les demandes de la clientèle. Au moment où on se parle, notre plan, c'est d'avoir une concession à Montréal, mais d'être capable d'avoir une offre de service à la grandeur de la province.
Okay.
Donc, on peut penser à un point de service, livraison et essais routiers, par exemple, à Québec. Je pense que c'est important. À Québec, c'est un gros marché à l'intérieur de la province qu'on doit se permettre de desservir de la bonne façon. Donc, est-ce qu'on doit avoir une concession pleine grandeur établie dans ces marchés-là? Pas nécessairement, je pense qu'en autant qu'on soit capable d'avoir une bonne offre de service. Au départ, on s'était mis comme objectif de desservir de la clientèle à l'intérieur d'un rayon de 250 km, ce qu'on fait encore aujourd'hui, mais il faut se rapprocher de ces gens-là.
Ouais, ouais.
Québec, par exemple, fait partie du plan.
En terminant, Hugues, vous aviez importé, si on peut parler ainsi, 10 Polestar 1 pour le marché canadien l'année passée. Est-ce qu'elles ont toutes trouvé preneur?
Les Polestar 1, au moment où on se parle, sont toujours en processus de livraison. Donc,
OK.
Oui, la dernière a sorti du plan de production il y a quelques semaines.
OK.
On va continuer à les livrer au premier trimestre de 2022.
Puis c'est un modèle qui va demeurer dans la gamme pour encore un an ou deux, certainement?
La production était globalement terminée. Donc, le dernier véhicule est sorti du plan de production. Par contre, comme je disais, on va continuer à livrer ces véhicules-là au courant de l'année 2022. Probablement qu'à fin 2022, les dernières livraisons vont être complétées.
Fait qu'il n'y aura pas de modèle 2023?
Non.
OK, parfait. Bon, ben ça va être une voiture assez rare, assez...
très exclusive.
Oui, d'autant plus que ça aura été la première, ouais. D'où le nom 1, d'ailleurs.
Ah, c'est pour ça que ça s'appelle Polestar.
Hugues, voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. On vous souhaite évidemment bonne chance pour la suite et j'ai bien hâte d'aller visiter cette véritable première concession-là qui va être plus proche de chez nous, finalement, que je pensais.
Ah, donc à quelques kilomètres plus près de te procurer une Polestar 2, Antoine. Merci beaucoup, Hugues.
Merci, bien apprécié.
OK, bye-bye. Bonne journée.
Bye, bonne journée.